Hey ho, let's go, c'est Plume et Pinceau, en compagnie de l'ami Roger qui fait des réglages, de casque. Qu'est-ce que vous m'entendez, Roger ?
Ah bah là, voilà, maintenant je vous entends. J'avais pas tourné le bouton.
Le bon. Mais c'est parce qu'on s'est fait bouffer 20 minutes par le voisin, là, qui nous a...
Obligé d'appeler la sécurité, quoi, pour s'en débarrasser.
Et moi, je l'ai connue, Arletty, elle était super.
Et en train de défendre Maurice Chevalier, non mais franchement...
Épuisant.
481e émission de
Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B. Alors, une émission avec des news et de la chronique.
Voilà.
Si je me trompe pas. Voilà. Des news et de la chronique et de la musique.
Voilà.
Et on commence tout de suite. Programmation à Roger. Une vieillerie. Old. Ça, c'était dans votre dossier old de votre clé USB.
Ayata, your daughter, from Venturian border, a come.
Les Scatellites avec Margarita, Womancom. Excellente programmation à l'ami Roger.
Ouais, est-ce que vous savez que j'ai interviewé Lloyd Barrett, le contrebassiste de Scatellites?
Vous avez des preuves?
Ouais, je me lave plus la main depuis. Après lui avoir serré la main, je garde cette empreinte. Il avait des mains hyper dures à force de jouer de la contrebasse. Vous savez, tous ses doigts étaient, c'était du béton armé. Bref, un excellent groupe, tout à fait, je vous remercie. Alors, puisque vous êtes gentils, tenez-vous bien, je vais dire du bien du gouvernement et je vais dire du bien de l'initiative de Rachida Dati.
Je pense que vous pouvez vous arrêter là, c'était bien.
Ben ouais, je suis désolé, l'honnêteté.
J'en ai vu des trucs dans ma vie. Et ça, franchement, je m'y attendais pas. Et
ça me fend le cul, mon bon Erwan. Mais quand les choses existent, alors il va falloir voir si ça va se réaliser. Parce que les effets d'annonce, ça va commencer.
C'est une annonce.
Des librairies bientôt ouvertes dans les logements sociaux, au sein des quartiers populaires, annonce Rachida Dati. Ce dispositif nouveau vise à apporter le livre au plus près des publics, en particulier ceux éloignés de la lecture, souligne la ministre de la Culture. Une expérimentation visant à promouvoir la lecture, des librairies et bibliothèques vont être ouvertes dans des logements sociaux au sein de quartiers populaires. Le 11 avril, elle avait annoncé ça. Cette initiative vise en priorité le logement social dans les quartiers politiques de la ville, mais aussi les zones rurales. Et un premier test se déroulera à Rillieux-la-Pape avec le député Alexandre Vincent Day. Cette ville, alors, et là en creux, c'est assez flippant. Ils disent que cette ville de 32 000 habitants ne compte aucune librairie.
Waouh!
Hein?
Ouais.
Ça fait bizarre. Et ouais, on n'est pas tous aussi bien logés qu'à Rennes. Et donc, cette initiative, qu'on ne peut quand même que louer, va être dotée d'un budget d'1,2 million d'euros. Alors, peut-être que certains, les spécialistes, pourront dire que c'est ridicule au regard de ce que... Mais ça a au moins le mérite, je dirais, d'initier, voire après. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il va y avoir un suivi? Est-ce que ces fonds seront renouvelés? Est-ce que ça a amené à se développer?
En tout cas, ça met le doigt sur un vrai problème.
Ah ben ouais, 32 villes, une ville de 32 000 habitants. Pas une librairie, vous imaginez un peu le désert.
Ah bah si on veut prendre notre retraite, on ouvre une librairie là-bas.
Bah voilà.
Pour la cause.
Yes, mais...
c'est dans quel département déjà?
Dans le Rhône.
Oh bah c'est pas désagréable ça en plus.
Ah il fait beau hein.
Bah ouais, on sera bien là-bas.
Ah bah écoutez... Et une, alors ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais autrement, il y aura pas que les Jeux Olympiques à Paris, Dieu merci.
Non, il y a aussi à Beaubourg, c'est voilà. Ça? Ah oui, j'avais vu le truc aussi.
Ouais, la BD à tous les étages, le Centre Pompidou célèbre le 9e art avec une exposition événement.
C'était ma news.
C'était votre news.
Ouais, non, mais vous avez raison.
Faites-la.
En fait, je vous rejoins, c'est une news importante parce que 750 œuvres vont être effectivement exposées dans les 6 étages du Centre Beaubourg. Apparemment, il y aura vraiment des très belles choses, hein, du Möbius, du Winsor McCay, du Chris Ware, d'ailleurs, qui a été fait chevalier des arts et des lettres, je crois, justement en lien avec l'exposition quand il est venu à Beaubourg. Il y aura même les Japonais, Tezuka, etc., Art Spiegelman. Vraiment, la BD est hyper à l'honneur et c'est vraiment une reconnaissance parce que c'est Beaubourg, quoi. C'est l'art contemporain, l'art moderne, la BD, et effectivement, comme la peinture, les installations, etc., c'est une reconnaissance, hein. C'est vachement chouette. Et puis, apparemment, il y a vraiment des superbes pièces, quoi.
Ouais, et il y a le choix de cette histoire qui m'a bien branché, plutôt que de faire un truc historique.
C'est thématique,
et ils ont retenu la date de 64. Et pourquoi 64 ? En fait, c'est parce que le choix de l'année, que 64, date de l'apparition de Barbarella, le premier roman graphique. Et c'est aussi la première fois que l'expression du 9e art est utilisée en France, dans Spirou et dans une revue de médecine. Et enfin, c'est la naissance du mensuel d'avant-garde, Garo, explique Thierry Grochtin, historien de la BD et conseiller scientifique de l'exposition. Et 64, quand on va sur Internet et qu'on voit des articles autour de cette expo, pouf, on tombe, il y aura des planches originales, il y aura des dessins de Monsieur Forest, et notamment autour de l'album Barbarella, qui reste quand même un des albums avec lequel je partirais sur une île déserte, en fait. Si je devais emmener qu'une seule BD, j'emmènerais Barbarella, c'est clair.
Ouais. Et puis, si j'ai bien compris, il y a aussi des confrontations, en fait, avec des peintres d'art candide.
Là, ça, par contre, on attaque le deuxième degré plus intello. J'ai pas tout compris. Expliquez-nous. Il y aura des BD en regard d'œuvres classiques,
pour montrer qu'il y a
des
filiations, etc. Corto Maltese aussi à l'honneur, justement, pour parler de ce dossier, du fait que c'est une BD qui a une base historique sérieuse, quoi. Les Italiens, quand ils font dans l'historique façon Battaglia, Toppi, etc., c'est du sérieux, quoi. C'est documenté. Et pareil pour Pratt.
En tout cas, voilà, si vous voulez éviter les Jeux Olympiques. Et en plus, c'est une expo qui se tiendra...
15 boules, je crois.
Qui se tiendra
jusqu'en octobre.
4 novembre.
Novembre.
4 novembre 2024.
Et je crois que c'est 15 euros.
Ouais.
15 euros, ça va.
Ouais,
franchement,
ouais.
Je crois que ça vaut le coup, effectivement. Et c'est le truc à ne pas manquer.
Et enfin, puisque c'est à la mode d'adapter comment les bandes dessinées passer le 9e art au 7e art, eh bien la marque jaune tome comme marque jaune l'emblème l'album emblématique de Blake et Mortimer devrait être adapté au cinéma. Un duo franco-belge à la tête de la production, ça doit débuter à l'automne 2024 avec un casting ciblant des acteurs anglais de 30 ans 40 ans. Nous, on a encore baisé. J'avais postulé pour ces petits bus, c'est mort.
Je devais être le troisième gendarme à gauche.
Merde, j'ai quand même un peu la tête de Septimus, quoi.
Bah, je fais un gendarme irlandais très convaincant.
Ouais, mais dans la marque jaune, oui, c'est vrai que c'est en Irlande, mais il n'y a pas forcément.
Non, enfin, c'est à Londres, mais.
Un Bobby, vous vouliez vous déguiser en
Bobby. Ouais, en Bobby.
Non, en tout cas, c'est mort, c'est mort. Ça sera réalisé par le réalisateur belge Yann Koonen. Qui travaille sur le scénario.
Alors, il avait fait quelque chose, si je ne me trompe pas, de vraiment très bizarre avec Blueberry.
Ah, c'est lui qui avait fait sur Blueberry.
Si je ne me trompe pas, ouais.
Et c'était, moi, je ne l'ai pas vu, mais tous les amis
alors là, je vais te dire, il n'y a pas que la marque Rojos qui va planer.
Okay.
Francis, descendez de cette grue, Francis.
Ok.
Ça peut être drôle.
Ouais, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée qui nous est pas retenue pour le.
La vraie question, c'est est-ce qu'il y a Christian Clavier ?
C'est ça qui me fait peur, mais on se rassure, hein, c'est des Belges qui sont à la boutique. Non, ils sont quand même plus malins que nous, ils vont pas tomber dans le. Je sais que chez nous, c'est obligatoire, hein, dans les productions françaises, d'avoir Christian Clavier. Vous aviez pas une commémo, une nouvelle commémo, sinon c'était
non,
l'expo.
Non, c'était, ouais. Ok. C'était la commémoration de la BD au sens large.
Voilà. Eh ben, un petit Licks maintenant.
Oui. Yes. Bah, puisque vous avez envoyé votre suite en premier tracks, j'envoie mon suite à moi en deuxième tracks.
Oh,
Beyond the Wizard's Sleeve. Le morceau s'appelle Creation. Je vous laisse apprécier le clip. Vous trouvez le lien sur notre blog et vous verrez un charmant duo de danseuses. Voilà.
Je commence avec quelque chose qui va casser l'ambiance, loin des chanteuses.
J'avais essayé d'introduire un côté poppy, joyeux dans cette histoire.
Eh ben, bon. C'est mort. C'est mort avec Godefroy, qui aussi, dit aussi le Seigneur.
Non, mais vous pouvez vous arrêter là. On a compris.
Voilà.
Godefroy. Godefroy, quoi.
Vous savez quoi?
J'imagine pas une histoire avec des lapins.
Vous êtes en train de me faire découvrir qu'effectivement, dans Godefroy, il y a froid. Et, je l'avais jamais vu avant parce que moi
il y a God.
Je l'appelle surtout Godefroy de Bouillon. Et vous avez tort de vous gausser parce que Godefroy de Bouillon. Alors c'est vrai que chez nous
c'est le croisé.
Ouais, c'est le croisé qui va prendre.
Il vient de Lorraine si je me trompe pas.
Ouais, mais alors à l'époque c'est une zone plus du côté belge. En fait, Godefroy a été un peu. C'est le personnage de Godefroy de Bouillon a été accaparé par. S'est fait accaparer par le nationalisme historique belge. Chacun a ses héros. On a bien Jeanne d'Arc en France, etc. Et ben c'est plus les Belges en fait. Qui se sont emparés du mythe de Godefroy de Bouillon, parce que les terres sur lesquelles il était, les dynasties desquelles il était issu, venaient principalement de ce qu'on appelle la Belgique actuelle. Voilà. Et ce monsieur-là, Godefroy de Bouillon, ben c'est quand même un destin assez hors du commun, parce que c'est un seigneur, certes, fallait pas le faire yèche, mais jusqu'à là, il s'était jamais fait trop remarquer par un pouvoir politique, une volonté politique exacerbée, etc. En tout cas, il va rejoindre la grande croisade, pas celle des enfants qui va se terminer en massacre. La deuxième croisade, celle victorieuse, qui va, ceci dit, tout au long du chemin, semer la mort, et la mort, le chaos et le désastre. Ils vont même attaquer Constantinople. Ils vont se faire la main sur Constantinople avant d'attaquer Jérusalem. C'est pour vous dire comment ils étaient un peu mauvais. Et je ne sais pas si vous avez, vous, des images de la conquête de Jérusalem. Mais les chroniqueurs se délectent en parlant de rivières de sang, des mahométans à travers les rues.
Et ça avait été vraiment un long chemin de croix aussi, au sens vraiment qu'effectivement ils avaient rencontré beaucoup. Ils n'avaient pas été exemplaires, mais forcément à l'époque il fallait vivre sur le territoire, donc par où tout y passait. C'était comme des sauterelles en fait, tu vois.
Voilà.
Donc effectivement ils ont beaucoup d'adversité. Effectivement à Constantinople, alors je ne suis pas sûr que le sac de Constantinople ça soit là. Ouais, je ne suis pas sûr. C'est celle avec qui a été pilotée un peu par Venise, là.
Ah,
je
ne
sais
oui.
plus la combientième.
Ah, ah.
Mais de toute façon, ça c'était pas très bien vu déjà dès l'époque. Hein. C'était orthodoxe grec déjà, conflit religieux, l'empereur, c'est quand même des chrétiens d'Occident qui déboulent sur ces terres. Il a fallu se faire son trou, quoi. Ça a été une grande épreuve. Puis même la prise de Jérusalem, ça a été compliqué. Enfin, la faim, la soif, on n'était pas séchois, on était avec nos grosses armures, etc., etc. Ouais, c'est une grande épopée.
Voilà,
c'est un peu un des héros de la première croisade, quoi. C'est l'homme qui, c'est le vrai croisé, c'est l'incarnation.
La deuxième, puisque la première, c'est celle des malheureux qui se font déchiqueter. C'est l'amuse-bouche pour les sarrasins. On les appelle les sarrasins, qui n'ont rien à voir avec la farine du même nom. Et Godefroy de Bouillon, eh bien, tome 1, les éditions Anspar. Parce qu'on dit « Anspar », on ne dit pas « Anspach », contrairement à ce que des maladroits comme moi pourraient tenter de dire, eh bien, a confié à Théo Dubois d'Engain et Rudy Miel le travail, la lourde tâche de nous retracer, là c'est le tome 1, « Le Seigneur de Bouillon », de nous retracer en plusieurs tomes l'épopée donc de cette deuxième croisade et surtout l'évolution du personnage, Godefroy dit aussi « de Bouillon », qui vend tout. Un jour, il dit à sa mère, il avait été convoqué par l'évêque. Il dit, on aimerait bien vous voir dans une croisade sérieuse. Bon, là, on a envoyé la piétaille, comment dirais-je, faire hacher par les sarrasins. Ça va nous débarrasser de tous les gueux qui encombraient les rues. Mais si on envoyait après ça, après la reconnaissance des gueux, une vraie armée, armée de pied en cap pour aller libérer Jérusalem. Et comme vous le dites, effectivement, c'est une sacrée route, hein, parce qu'il faut traverser la Méditerranée, longer tout. Alors, je crois qu'ils vont. Alors, c'est vrai que vous avez raison, ils n'ont pas cartonné cette fois-là à Constantinople, mais je crois qu'ils ont cartonné Alep, Damas, ils ont tout pété.
Ouais, oui, mais c'était bourré de sarrasine.
Et c'est donc le dessinateur qu'on ne connaît pas, puisque je crois que c'est son premier ouvrage, en tout cas chez Anspar, mais autrement il a travaillé chez Petit à Petit dans des ouvrages collectifs.
Dessin réaliste, non ?
Ouais, bah oui, hyper réaliste, Théo Dubois d'Anguin. Et ce qui n'est pas sans rappeler un peu, je dirais quelque part, bah, on est dans la veine, qui c'est qui a fait, on n'est pas au niveau du trait des Tours du Bois Maury de Monsieur Herman, mais bah, c'est le même univers, on est dans cet univers.
Et alors, quand ça bastonne ou...
Alors, ça bastonne pas à fond dans le tome 1. Ça bastonne pas à fond dans le tome 1. Il a bien fallu que le scénariste Rudy Miel, étoffe un peu le personnage avec des discours, parce que vous imaginez bien qu'on finalement, on ne sait pas grand-chose du personnage. Hein. On ne sait que ce que les gens ont bien voulu en dire. Donc, ça reste un personnage qui est quand même assez mystérieux dans le détail. On sait qu'il va devenir roi de Jérusalem. Il se mariera jamais. Il n'aura pas d'enfant, donc il n'aura pas d'héritier. Une sorte de roi sans couronne. Et dans ce premier album, eh bien, le scénariste qui a déjà, réalisé un paquet d'ouvrages, notamment historiques, notamment, je vais vous dire, moi, puisque j'ai la feuille dans le dos, devant le nez, Buonaparte, aux éditions Delcourt, L'Ordre Impair, édition Lombard, L'Arbre des Deux Printemps. C'est un scénariste, qui a déjà beaucoup travaillé sur l'histoire, et c'est ce qu'a décidé de faire les éditions Anspar, et c'est ce qu'on retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, puisque nous recevrons Monsieur Marivin en interview exclusive, s'il vous plaît, pour la sortie, de Oradour, d'un ouvrage sur Oradour sur Glane, L'innocence massacrée, si je ne dis pas de bêtises, avec Monsieur Mignac au scénario. Et on a la chance que Monsieur Marivin, il habite pas loin, et de ce fait, il nous fait la gentillesse de venir nous voir la semaine prochaine, direct même chez Plume et Pinceau.
Alors s'il nous écoute, qu'il sache qu'on va lui parler du casque allemand. Non, mais qu'il le sache.
Oui, qu'il revise. Il faut reviser le casque allemand.
Il y aura une épreuve pratique.
Parce que...
Le casque allemand. C'est tout.
Voilà.
C'est la seule leçon.
Donc, rien à voir avec le casque allemand, mais le désastre et le malheur qui vont s'abattre sur un Orient. En plus de ça, c'était pas de chance. Hein. C'est le moment où l'Empire arabe à l'ouest va être attaqué par les croisés et à l'est va commencer à se faire attaquer par les Mongols, Gengis Khan et sa bande. C'est pas véritablement l'époque la plus glorieuse pour ces malheureux qui vont voir la peste.
Le Mongol est fourbe.
La peste débarquée en la personne de Godefroy, le seigneur de Bouillon, et tous ses amis d'une grande chasuble blanche avec une croix rouge pour qu'on voie moins le sang. En tout cas, c'est très intéressant. Permet de découvrir une période, somme toute, dont on ne sait pas grand-chose. Godefroy, le seigneur de Bouillon, aux éditions Anspar.
Le Monde du cinéma a rendu il n'y a pas très longtemps hommage à George Lucas, hein, le père de La Guerre des Étoiles. Ce qui me permet en fait de rattraper une lecture que je n'ai pas chroniquée. Donc il date un petit peu, Bertrand dirait, mais c'est de la préhistoire, tout ça.
Ah oui, mais lui, il a trois planètes, donc il s'en fout. C'est très bien, mon bon Erwan, continuez.
C'est Les Guerres de Lucas, de Renaud Roche et Laurent Hopman, aux De Man Éditions. C'est l'histoire réelle du tournage du premier épisode de Star Wars pour nous, donc dans la fameuse composition finale, je crois que c'est l'épisode 4, si je me trompe pas, La Guerre des Étoiles. On va suivre comment effectivement la jeunesse du jeune George Lucas, notamment on découvre que c'est un gamin qui est déjà border et très perdu dans ses pensées, dans ses mondes, influencé par Flash Gordon.
Un petit geek, peu
déconnecté.
Un geek au niveau pour les autres ou quoi?
Un peu les relations sociales sont un peu difficiles, la scolarité est pas forcément très bonne, mais qui a un imaginaire très puissant, qui se verra par le fait qu'il va très vite, alors qu'il était vraiment très branleur, un accident de voiture va un petit peu le faire réfléchir et il va se lancer dans le cinéma. Et tu découvres toute l'histoire familiale, etc. Vraiment, le tournage de THX aussi, ce film qu'il fait lorsqu'il est étudiant et qu'il l'introduit dans le monde de la science-fiction et du cinéma par la grande porte. C'est vachement bien, tu croises Coppola, etc. etc. Et surtout, tu as plein d'anecdotes de tournage sur eh ben sur la guerre des étoiles, Tatou, la sélection des trois héros, Carrie, Harrison, Mark. Tu as la création des robots, le fait qu'il y avait un petit nain dans R2-D2, et surtout la bagarre avec les studios, quoi. La bagarre avec les studios, l'intégration d'Alec Guinness qui vient jouer Obi-Wan Kenobi, mais lui c'est une pointure quand même, donc c'est spécial. Puis il vient de l'Angleterre, du théâtre, c'est des grands rôles, quoi. On le fait intégrer à un film de science-fiction. Puis surtout, à un moment, on va le faire mourir. Faut qu'il accepte l'idée, quoi. Moi? Mon personnage. Enfin, et c'est vraiment captivant, quoi. C'est super bien dessiné, c'est super bien orchestré, c'est vraiment une très grande réussite. Donc je me permets en fait de rattraper un peu, on va dire, cette lacune.
C'est pas si vieux que ça.
C'est non, c'est de 23, je crois. Grand maximum, c'est 23.
Ça va, mais j'ai pas eu le temps de noter.
Les guerres de Lucas, en fait, c'est les mille et une épreuves, les mille et un conflits qu'il devra gérer pour mener à bout son film. Et en fait, bon, je spoil rien, bon, ça va être un succès et ça va se terminer sur, les studios et lui, comme il commence à envisager le tournage d'un deuxième épisode, d'une suite, et là il y a eu comme un renversement dans le rapport de force.
Et c'est vachement bien. Vous nous avez pas dit.
Alors c'est fait avec Renaud Roche et Laurent Hopman au dessin. Yes, Les Guerres de Lucas, édition Deman édition. C'est un fort beau livre, bien carré. Et je trouve la couverture très réussie. On le voit, c'est une scène clé. Tu vois George Lucas de dos, donc tu le reconnais parce que, tu sais, comme au cinéma, il a son nom sur son petit siège derrière. Et il regarde le soleil se coucher. Et si tu regardes bien, en fait, ça évoque donc une scène où, effectivement, il regardait le soleil se coucher. Il était en Algérie. Ou en Tunisie, pas très loin de la frontière algérienne, il attendait une espèce de coup de force qu'il avait tenté auprès des studios, voir s'ils allaient lui accorder 7 millions, je crois. C'est en fait ce qu'il attendait, qui bloquait tout, quoi. Et là, sur la couverture, c'est transposé, il regarde les deux lunes se coucher, et tu reconnais au fond la maison de Luke Skywalker, tu sais. Il est déjà, il est confronté déjà à son film. C'est vraiment très très belle la couverture, et c'est passionnant. C'est fourmillant d'anecdotes et tout, t'as plein de... T'as les salauds, les héros, Harrison, c'est très fort. Je découvre vraiment le personnage de Harrison.
Et alors, plutôt sympa ou quoi?
Ouais, plutôt sympa, plutôt grande gueule aussi, assez sûr de lui, battleur quoi. Au départ, il devait pas être dedans. Et puis tu vas découvrir comment il arrive. Et puis c'est le mec, il arrive, donc tu vois, il est marié et tout, hein, mais c'est pas grave. Son pouvoir de séduction va marcher.
Et donc là, par contre, ça n'a rien à voir avec l'autre ouvrage de référence sur Lucas, comment réalisé par M. Bernstein.
Non, je crois qu'ils sont beaucoup plus documentés dans celui-là.
Vous êtes sûr?
L'autre, je pense qu'il y avait une part d'impro.
Moi, il y avait une version qui nous... D'ailleurs, on avait interviewé le scénariste, quand même, une version très intéressante sur la genèse, justement.
Il est sorti de prison, lui, ou pas?
C'est paru aux éditions Flux Glacial, qu'on doit au talent de messieurs Bernstein et Aubion, c'est ça. Hein. Ouais, je ne sais plus le titre, bordel.
Moi non plus, et pourtant je vois bien l'Empire... le dessin, leur petite tête qui est peut-être très carrée là.
En tout cas, ça peut se retrouver ne serait-ce que dans les vieilles émissions Plumes et Pinceaux.
Ouais. Interlude musical.
Yes.
Allez, un peu de rock garage. White Reaper, Make Me Wanna Die.
Yeah.
moi, c'est le genre de morceau qui me donne envie de sauter partout. Je le reconnais.
Voilà.
Les White Reaper.
Ou alors d'envoyer l'armée. C'est ça. Que vous aurez sûrement proposé, monsieur Fabrice R, à travers cet ouvrage « Envoyer l'armée » aux éditions Delcourt de la collection Patakès.
Belle transition.
Et en fait, vous savez comment... Enfin, monsieur Fabrice...
Alors, ça me fait peur, parce que vous me dites que c'est... Je vous regardais déchirer vos petites bandelettes de papier pour faire des marques tapages.
Ouais.
Quand je vous m'apprenez que c'est Fabrice R, vous allez nous raconter la moitié des blagues de l'album.
Non. Je veux juste me rappeler, parce que ça pourrit le plan. Je vais pas naturellement... Alors, je rappelle quand même aux plus ignares d'entre vous, mais je suppose que vous n'êtes pas nombreuses et nombreux, à ignorer que Fabrice R, c'est un des chouchous à Roger, parce que Fabrice R...
C'est le Jacovetti français.
Ouais, il est là pour... nous offrir, comme disait Monsieur Gossin, un espace-temps dans lequel on rit même des choses les plus tragiques. Vous avez quand même remarqué, comme moi, mon bon Erwan, que là, l'heure est au kaki. C'est ce que pense aussi Fabrice R, puisque quand on ouvre son ouvrage, les deux premières pages sont vers armée.
Tout à fait.
Eh oui. Entre la guerre en Ukraine, les massacres comme en conjoint en Palestine qui n'en finiront jamais, le fait que ça chie un peu partout grave, eh bien, ça a inspiré Fabrice R et rigolons de tout avant la fin du monde, aurait-on pu dire. C'est ce qu'on peut dire. Et alors, c'est rigolo parce que, de fait, on retrouve un petit peu c'est normal, M. Macron étant là depuis 2017, c'est normal que le président qui est montré dans le cadre de cette petite bande dessinée ait un peu les traits de Macron, qui rappelle aussi, vous savez, un peu les agitations de Macron concernant. Il est souvent en guerre, on était en guerre contre le Covid. On était en guerre contre le réarmement. On est en guerre pour le réarmement démographique. On est bientôt en guerre directe avec les Russes. C'est un vocabulaire. Hein, et à force d'utiliser le vocabulaire, ça peut avoir des conséquences. Et c'est ce qu'on voit à travers cet ouvrage. Ne jamais blaguer avec un militaire, parce que sinon, ça finit pas forcément tip top. Et c'est ça qu'on va retrouver tout au long de ce charmant petit album. Rions vite en attendant la fin du monde, collection Patakès, monsieur Fabrice R, dessin, scénario, c'est, et couleur naturellement, je crois qu'il fait tout.
Oui.
C'est magnifique, c'est toujours aussi drôle.
C'est du Néron, faut vraiment penser à Jacovetti.
Ouais, sans les saucissons.
Sans les saucissons, évidemment, mais il y a ce trait et puis ce dynamisme dans les graphismes.
Ouais, il n'est pas, par contre, on est dans la caricature, mais il n'est pas dans le méchant. Son personnage reste toujours quelque part sympathique, même si ce qu'ils agitent et ce qu'ils font.
Ils ont des grosses moustaches.
Ouais, plus ils ont des moustaches longues en général, moins c'est des sympas.
Ouais, c'est sympa.
Monsieur Fabrice R, Envoyer l'armée, collection Patakès, édition Delcourt. Vous me prendrez un bon Envoyer l'armée tous les soirs avant d'aller au lit.
Yes. Alors sans transition, hein, mais moi je vais taper plutôt dans la BD vraiment italienne, avec ses inspirations italiennes. Là, il faut aller regarder plus du côté, tu sais, de ces séries B un peu d'horreur que faisait aussi l'Italie. Il y a plein de films de zombies un peu, tu sais, un peu pas moisi, mais vraiment gothico.
Série Z
quoi, un peu trash, un peu de cul, un peu de bidoche, et en même temps tu retrouves cette ambiance là et le graphisme italien des topis et tout ça dans Dracula, l'ordre du dragon, de Marco Canavo et de Corrado Roy, d'après l'œuvre de Bram Stoker, bien évidemment. Alors au début, je me suis dit, oh, encore un truc sur Dracula, c'est reparti. Surtout que la première scène que tu vois, c'est notre jeune avocat anglais qui s'est retrouvé sur les terres de Dracula et qui malencontreusement... lui a permis de voir le portrait de sa petite chérie. Et notre Dracula, justement, il était dans un projet d'acheter une maison à Londres, tu vois. Il pensait partir. Et là, Lucie, la copine de notre héros, elle l'intéresse bien. Donc, au début, tu retrouves l'histoire, l'arrivée dans le château, etc., de notre jeune avocat Jonathan Harker, là. Tout début. Et après, Après, c'est là où il y a la première bonne surprise, c'est que ils ont trouvé une idée qui, tout en respectant l'œuvre originale, c'est-à-dire tu reprends les personnages, hein, tu retrouves Van Helsing, etc., etc., Lucie, etc. Tout en respectant ça, ils ont trouvé un petit bonus à l'histoire et ils lui donnent une nouvelle interprétation. Et ça, c'est déjà plutôt pas mal joué. Et alors, ce qui est très déroutant, alors je sais pas si j'aime beaucoup en fait. C'est un dessin au lavis noir et blanc. Tu sais qu'il va vraiment chercher vers les grands Italiens, la Topi, etc.
Italia.
Ouais. Mais il est moins précis, moins net, et il est tout le temps un peu comme des espèces de brume. Et ça marche plutôt pas mal avec l'histoire de Dracula. Alors quand ce Dracula est sous ses formes les plus monstrueuses aussi, il est plutôt réussi parce que il a là aussi ce côté série Z de italienne. Donc c'est plutôt un bon ouvrage, assez surprenant, un chouette one shot, une relecture assez originale et finalement un peu décalée du roman de Bram Stoker, un dessin en lavis noir plutôt réussi. Ouais, un bon one shot paru chez Glénat. Marco Canavo alors au scénario et Corrado Roy au dessin. Dracula, l'ordre du dragon.
Et c'est aux éditions
Glénat.
Okay.
Interlude musical. Minute 5 de rock'n'roll avec Wild Rooster, Flip, Flop and Fly. Tel était le nom du morceau.
Ouais, j'aime bien, moi, Flip, Flop and Fly. J'aime bien ce
sympa.
Titre, ça me fait bien rire. Et Bushporn devint un haut lieu de la BD. Enfin, pas encore tout à fait, mais peut-être.
Et quoi ?
Bushporn, B-O-U-C-H-E. P-O-R-N. Bushporn. Alors, pourquoi Bushporn? C'est très, très compliqué. En fait, tiens, j'avais envie de placer ce mot-là. C'est un ouvrage choral.
Bush porn, ça veut dire un ouvrage coréen?
Non, bush porn, comment, je sais pas ce que ça veut dire, bush porn, parce que vous êtes un détraqué, vous allez sûrement y voir du mal. Moi, ce que je vois surtout, c'est que dans la main, dans les mains, j'ai un ouvrage intitulé T'inquiète, que nous devons à messieurs Beignet, Bouzard, Fabrice R, Fab Caro et Gilles Rochier, quand même, mine de rien. C'est-à-dire, ouais. pas loin de 10 mains et 5 cerveaux.
Ouais, et quel rapport service, avec bush porn?
Parce que c'est le lieu où ces 5 héros, 5 personnages, parce qu'ils vont s'auto-dessiner, ils vont s'auto-représenter dans cette histoire-là.
Auto-fiction.
Voilà, ils sont partis, ils vont recevoir tous un courrier mystérieux qui les convie à Bush Porn pour un concert. Et chacun de leur côté vont se rendre à Bush Porn, chacun à leur manière, de manière assez alambiquée. Alors on peut faire confiance à monsieur Beignet, notamment pour faire énormément de misère à son personnage et lui faire prendre les détours les plus singuliers. Mmh. On peut aussi faire confiance à monsieur Bouzard, dont ça fait longtemps que j'ai pas parlé, qui lui s'autodessine lorsqu'il conduit, c'est à poil, quoi. C'est là qu'il est à l'aise. Et la grande trouvaille, c'est que quand il écoute de la zik sur son autoradio, le chanteur est à côté de lui, même physiquement. Et c'est totalement énorme. Et on voit Ne me quitte pas, on voit Jacques Brel qui chante, et on voit Guillaume Bouzard qui a la goutte au nez, qui chiale comme une madeleine. Et c'est et naturellement, tout à l'heure j'ai déjà parlé de Fabrice R il y a 5 minutes. Fab Caro ne le présente plus, c'est plus Gilles Rochier, moi par contre, que je connaissais moins, et que j'ai découvert à travers cet album intitulé T'inquiète. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter, puisque sur la couverture on voit juste un espèce de jumbo jet en flammes qui semble se diriger vers le sol. Et parce que ce jumbo jet, loin de tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, a un rapport avec cette histoire. Alors c'est difficile, difficile, vous imaginez bien, de narrer la façon dont chacun des protagonistes se rend à Bush Porn.
Mais alors, ils font chacun un épisode ou vraiment
un épisode et vous passez d'un personnage à un autre comme ça. Alors parfois, ils communiquent entre eux de manière assez surréaliste, assez dingo. Une sorte de cadavre exquis, un peu parfois. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Mais pas tout à fait non plus, parce que ils sont quand même vaguement au courant d'une histoire commune. Ils réalisent quand même une histoire en, une histoire en commun. Je ne peux m'empêcher que de rigoler, surtout. Alors, par contre, il y a des fois où les personnages se mélangent. C'est notamment le cas, bah, par exemple, de monsieur Bouzard avec monsieur Fabrice R, qui retrouve, qui l'embarque. Il est toujours à poil avec son casque de tronçonneuse. Enfin, bref, c'est toujours comment, c'est super bien barré, bien épais, ma foi, ce qui fait que, de ce fait, encore une fois, je suis venu, après vous avoir parlé d'un ouvrage historique, je suis venu aussi pour vous détendre, mon bon Erwan. Je sais que l'époque n'est pas à la rigolade, malgré les efforts notamment de l'Eurovision, hein, avec des concurrents totalement exotiques, comment pour essayer de l'emporter. Et même la télé, hein, essaye de nous distraire, de nous faire rire, mais rien ne vaut quand même T'inquiète. Cet ouvrage choral, encore une fois, paru aux éditions Six Pieds Sous Terre. Voilà.
Merci mon bon Roger, j'ai encore le temps de vous chroniquer une dernière petite pépite, un récit entre western et horreur en fait, un western horrifique. Canary, c'est le récit que nous ont concocté Scott Snyder et Don Penossian au dessin.
J'ai entendu parler de celui-ci.
Il est plutôt chouette. Donc on est vraiment dans la conquête de l'Ouest et on va suivre les aventures d'un marshal, William Holt. Alors lui, il a un petit truc, une petite signature, un petit truc qui lui permet de se distinguer. C'est qu'il met une espèce de foulard et dessus, il y a comme le dessin d'un cercueil. Donc tu vois, il a un côté masqué, mystérieux et presque super-héros déjà avec cette petite trouvaille dont tu se connaîtras l'explication pourquoi il s'est mis ce foulard sur le nez. Dans l'ouvrage, bien sûr. Donc du coup, il est même devenu un personnage de roman. Il est fait vraiment au cœur de la mythologie américaine, puisque il a notamment abattu Irumtel, une espèce de tueur en série qui sévissait dans un coin paumé, autour, pas très loin, de la ville de Canary, qui va être le décor de notre aventure. Donc, notre Marshall, il vit un peu sur cette réputation d'avoir été l'homme qui a abattu Hiroom Tell. Tout ça est présenté vraiment comme une contrefaçon entre le bien et le mal. Il est vraiment starifié. La réalité est un peu tout autre, parce que tu vas avoir tout un tas de flashbacks qui va t'expliquer déjà cet événement. Et là, notre Marshall, il est envoyé un peu en style en dernière mission, accompagné un géographe à Canary. Alors, Canary, il y a une grande mine. Tu vois, la ville était minière, il y a eu une catastrophe, ce qui a tué un peu la ville.
Moi, j'avais noté Canary avec un S. Non, non,
non, non, Canary avec un Y.
Et ouais.
Et il est envoyé là, donc, avec un géologue, parce que, pour voir la vieille mine abandonnée, parce que, tout autour, dans une zone autour, là où en fait des affluents, des rivières viennent de notre mine, il y a eu des espèces de tueurs fous, de tueurs en série qui ont sévi, mais alors des gamins, des mères de famille, etc., qui d'un seul coup pétaient les plombs.
Ah, mais je sais pourquoi je vous ai laissé le lire maintenant.
Ouais, exactement.
Ah oui, voilà.
Donc il va partir, ils vont voir s'il y a quelque chose qui est lié à cette mine, parce que notre géographe pense que tout, en fait, les rivières qui passent par là sont la source.
Maudite.
Il y a comme une contamination, malédiction. Et donc ils vont arriver dans cette ville. Alors bien sûr, t'as le maire, tu sais, qui voudrait bien que sa mine réouvre. T'as la fille de celui qui possédait la mine, qui a disparu dans l'accident de la mine. Tu as tout un tas de galeries de personnages qui ont des intérêts différents autour de cette mine. Donc, on va suivre cette enquête. Et disons que tout commence vraiment quand par un appareil que possède notre géographe, ils vont faire une espèce d'enregistrement sonore qu'ils vont écouter a posteriori par un pied mécanisme, une espèce de phonogramme, je sais plus comment ils l'appellent, mais tu sais qu'à un côté phonographe à la 18e, ils vont entendre sauvez-nous, nous sommes toujours vivants.
Oh mon Dieu.
Oh, et donc va falloir descendre. Et c'est vachement bien, c'est vraiment bien.
Alors c'est qui ?
Donc Scott Snyder au scénario, alors c'est pas un perdreau de l'année, hein, faut reconnaître. Il nous a déjà proposé pas mal de trucs. Et Don Panossian au dessin, un western horrifique. Il paraît que c'est même inspiré d'une histoire vraie. En tout cas, il y a un côté aussi théologique. Alors, je veux pas, autour de la mine qui est vraiment bien.
C'est chez qui ?
C'est chez Delcourt, hein. Importation des USA, je crois bien. Eh bien, on a encore le temps d'un dernier petit morceau. Ça vous dit ?
Yep.
Ça vous gêne si j'exhume un vieux groupe australien ?
Non, vous allez vous gêne pas. The Saints.
Exactement. Far from home. All right.
got it, some heart and some brains. The bell never love will do. Your baby don't know how it hurts to be stranded on your own. Stranded far from home, from life. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you got to feel me alone, come on. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone, 'cause I'm stranded on my own. Stranded.
I'm stranded. C'est marrant que vous ayez écouté ça ce matin.
Ben ouais, comme quoi, hein, comme quoi, qu'est-ce que vous voulez
connivence.
Vous connivence, quand tu veux. Connivence. Des connivences, il n'y en a pas, mais on vous rappelle quand même que nous recevrons Monsieur Bruno Marivin la semaine prochaine pour son album Oradour, l'innocence assassinée, paru aux éditions Anspar, avec Monsieur Mignac au scénario. Faut savoir que cet ouvrage, il y a plusieurs ouvrages qui sortent en même temps, mais qui sont pas tout à fait qui abordent Oradour, mais pas tout à fait sous le même angle. L'ouvrage que nous avons chroniqué la semaine prochaine. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Monsieur Marivin a travaillé énormément avec des derniers survivants de
Robert Ebras et Camille Sénon, ouais.
C'est ça,
exactement.
Qui va lui donner des conseils sur la décoration, comment c'était, etc.
Et donc on parlera du casque allemand.
Et on parlera du casque allemand, mais en fait, effectivement, sur le coup, je regarde, je dis « Ah ah, je vais l'embêter dedans, c'est parce qu'il y a le camouflage. »
Ouais, il est malin, là. Là-dessus, il a été malin,
et
effectivement.
Quand le casque n'est pas camouflé, il assure le casque allemand. Et ce qui est terrible, c'est que on arrive encore à découvrir des choses autour de cette histoire d'Oradour, que moi, j'ignorais particulièrement la façon dont le massacre avait été commis. Enfin, on reviendra là-dessus plus en détail, puisque et puis cet ouvrage, surtout, ce qui est intéressant, ils ont travaillé avec un des survivants, et aussi en liaison avec le comité du souvenir, parce que
l'association nationale des familles du martyr d'Oradour.
Ouais, parce que il faut savoir que quand l'affaire va être jugée, il y a des auteurs de ce massacre qui vont être arrêtés, et ça va déclencher une polémique incroyable, parce que parmi les troupes qui étaient présentes à Oradour, la troupe allemande, il y avait pas mal de, comme malgré nous, c'est-à-dire des Alsaciens français.
Exactement, et notamment impliqués dans les faits. Et ils ont été poursuivis très longtemps, je me souviens d'avoir vu un reportage qui se passait, tu vois, dans les années 80 ou 90, où la gendarmerie française travaillait encore sur ça, et des vétérans allemands étaient inquiétés en Allemagne.
Bah ouais, parce que le jugement va laisser véritablement les familles des victimes, sur leur faim, parce que c'est pas le terme que je voudrais utiliser, mais plus sur leur douleur, quoi, parce qu'il y aura une sensation quand même d'impunité, parce que nombre des membres de ces troupes-là ne seront pas inquiétés au final.
Ouais. Donc, Oradour sur Glane, oui, ça sera un peu l'ombre qui va planer autour de cette interview. Donc, on réagira la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à aller voir notre blog. Vous y trouvez notamment le lien si vous nous envoyez des chroniques. Hein. Nous, on est preneurs. Ou si vous voulez juste nous faire des salutations, c'est bien
ou
aussi.
Ou envoyer un briquet.
Ou déposer le briquet pour nous. Ouais, non, c'est bien. Des dessins de casque allemand, on veut bien.
Un grand concours.
Voilà, si vous voulez nous joindre. C'était la 481e. Parce que j'avais bien raison dans nos décomptes.
Ah, ça y est, je vous suis. Mais non, mais vous aviez raison.
481e de Plumes et Pinceaux. Les 500 commencent à se profiler à l'horizon, c'est cool. Puis bonne lecture, tant qu'on a le droit, bien sûr. Je voyais bien que vous attendiez la formule rituelle.
Ben oui, je me disais, tiens, il oublie. Pressé de partir, comment travailler.
Je sais que vous êtes pressé aussi. Bonne lecture, tant qu'on a le droit.